Chapitre 8. Deux semaines passèrent vite et Marthe revint à la Cerisaie. Mademoiselle Doullens manifesta de la joie à revoir sa nièce. Ce qu'elle avait de cœur s'émut et elle tendit à moitié les bras quand, un soir, debout sur le seuil de la maison, elle vit accourir la jeune fille. Elle reprit bien vite d'ailleurs son air pincé, ses phrases désagréables, ses habitudes tracassières. Seulement, Marthe observa qu'elle devenait presque généreuse. Quand le taupier Sosthène Luneau vint se faire payer de la rente de 10 boisseaux de blé qu'on lui devait chaque année pour avoir exercé son art dans les terres du domaine, elle lui donna 1 boisseau en sus et 1 verre de vin blanc en lui disant « Si tu travailles bien mes prébas, tu en auras autant l'an prochain. » Plusieurs fois aussi, elle fit remettre 1 sou à chacun des pauvres qui, le samedi, venaient en procession tendre la main à la porte, gens des paroisses voisines, en général, qui vont quêter de village en village, le lundi à Candé, le mardi à Verne, le mercredi au Lion d'Angers, le jeudi à Andigné, le vendredi à Segré, le samedi à Chazé et à Marance. Depuis qu'elle habitait la Cerisaie, Mademoiselle Doullens n'avait jamais donné plus de 2 liards dans ses distributions. Elle était taxée à ce chiffre dans l'actif des budgets de la troupe mendiante. Quand on sut qu'elle donnait quelquefois 1 sou, la procession du samedi devint plus nombreuse. Un jour enfin, Marthe entendit sa tante se plaindre de la longueur du mauvais sentier qui conduisait à Marance et dire « Je devrais bien faire une allée sablée à travers les prés pour rejoindre la route au-delà du carrefour du Tremble. Ce serait plus sec et plus court. » Elle ne fit pas l'aller, mais c'était beaucoup d'en avoir parlé. De tels symptômes, Marthe avait conclu que Mademoiselle Doullens avait hérité quelque fortune de son frère. Elle en acquit la certitude 1 mois environ après son retour à la Cerisaie. Le facteur, dont l'apparition, rare dans cette campagne reculée, était un événement, se montra, son bâton à la main, à la barrière du pré. La fille de basse-cour, qui mesurait du menu grain dans le grenier, l'aperçut la première par la lucarne ouverte et cria « Mademoiselle, c'est le facteur !»« Eh bien, laisse-le venir !» répondit la voix aigre de Mademoiselle Doullens, « et va panser tes poules, au lieu de regarder par la fenêtre !» Mademoiselle Doullens manifesta néanmoins une certaine impatience en attendant l'arrivée du bonhomme et mit ses lunettes 10 minutes à l'avance. Quand le facteur entra dans le corridor en faisant sonner les dalles sous son bâton ferré, elle alla vivement à sa rencontre et rapporta dans le salon un gros pli scellé de plusieurs cachets. Elle l'ouvrit avec une certaine solennité. Marthe, qui l'observait, la vit étudier avec une satisfaction croissante un gros cahier d'écriture qui se terminait par un paraphe magistral, évidemment celui d'un homme d'affaires. Quand Mademoiselle Doullens eut terminé sa lecture, elle dit à mi-voix, en remettant le cahier dans l'enveloppe et comme se parlant à elle-même, « Les subsistances militaires rapportaient décidément plus que je ne pensais. » Ce fut tout ce que Mademoiselle de Cény connut de la fortune de son oncle, tout entière léguée à Mademoiselle Doullens. Que lui importait? Elle avait plus que de l'insouciance à l'endroit de la fortune. Elle ignorait ce que c'était. Son cœur n'était pas là. Plus jeune que celui de Mademoiselle Doullens, il ne battait pas pour une pièce d'or. Elle préférait à la lecture des actes notariés quelques courses matinales sur sa jument grise à travers les prés. Ses échappées lui plaisaient plus encore depuis quelques mois, elle les faisait plus longues. Une pointe de rêverie s'y mêlait. Sans qu'elle s'en rendît clairement compte, ses pensées prenaient souvent la route de la basse rivière. Volontiers, elle entendait parler de son jeune voisin. Il est vrai que, pour entendre parler de lui, elle n'avait qu'à écouter. Je ne sais quelle conspiration générale, que personne n'avait ourdie et où tout le monde était entré, la renseignait minutieusement. Par le curé, par les lingères qui venaient en journée à la Gerbellière ou à la Cerisée en sortant d'une ferme du baron Jacques, par le taupier qui apprenait tout sans interroger personne. En flânant le long des voyettes, elle savait s'il avait reçu un ami en déplacement de chasse, s'il était retourné à la Cilière, chez le marquis dont la fille avait 20 ans aussi. Elle savait même que son cidre était le plus mousseux du pays, car le facteur avait pu comparer, et que Cab, le pauvre alezan, boitait toujours. Elle savait 100 choses encore, mais ce qui lui plaisait surtout, c'était de recevoir de tous côtés le témoignage et de constater par elle-même que le baron Jacques, depuis si peu de temps qu'il résidait dans la terre des Lucés, avait déjà conquis la place qui avait tenu ses aïeux, conseillers, protecteurs et amis des petites gens. Elle en éprouvait un sentiment voisin de la fierté et comparait en elle-même cette popularité naissante avec celle dont M. de Cenis, lui aussi, et pour les mêmes raisons, avait été promptement l'objet. Ce rapprochement, qui associait le jeune homme au plus cher souvenir de Mademoiselle de Cenis, était sans doute pour quelque chose dans le petit battement de cœur qu'elle éprouvait presque chaque dimanche à la sortie de la grand-messe, quand le baron Jacques, se détachant d'un groupe de métayers qui l'entouraient comme un homme utile et aimé auquel il est bon de demander avis, la saluait au passage. Il y mettait tant de bonne grâce qu'elle en était touchée, et tant de constance, malgré la maussaderie de Mademoiselle Doullens, qu'elle n'avait pu s'empêcher, une fois ou deux, de remercier d'un sourire ou d'un regard. Était-ce trop, vraiment, et ne devait-elle pas être aimable pour deux? De la sorte, petit à petit, il avait pris dans sa vie une place dont elle ignorait l'importance, ne l'ayant pas donnée, mais l'ayant laissée prendre. Elle put la mesurer un jour, le jour où elle porta pour la première fois le joli chapeau bleu et noir à esprit qu'elle avait fait venir de Paris, un peu, beaucoup même, pour lui. Un chapeau à esprit? Oui, cela s'appelait ainsi. Marthe recevait un journal de mode, alors très en faveur, l'album. Elle y avait lu cet avis alléchant, écrit dans le style pomponné de l'époque. Les esprits ont décidément la vogue. Je ne parle pas de ces êtres célestes qui, gracieux agents des muses, inspirent leurs favoris, les Casimirs de la Vigne, les Viennets, les Ancelots et toute la troupe immortelle dont le palais s'élève au bout du pont du Louvre. Je parle d'une touffe de plumes effilées, blanches ou noires, que les modistes plantent au milieu de marabouts ou d'ondoyantes plumes d'autruche, sur les toques et les chapeaux nouveaux. À la cour, quelques dames placent un esprit jusque dans leurs cheveux. Je sais bien que quelques-uns de ces plaisants, dont l'espèce est assez commune, feront sur le goût de nos belles un méchant colibé. Moi, je dirais la vraie cause du succès d'une telle mode. Nos hussards, nos lanciers et avant eux nos maréchaux portent des esprits sur leur tête guerrière et nos dames, dont le cœur est tout français, aiment à ressembler par quelque endroit à nos héros. Marthe avait trouvé cela très joli, elle rêvait d'un esprit. Le même journal de mode donnait l'adresse du fabricant. L'esprit venait de chez l'inimitable Zacharie, 93 rue de Richelieu. Elle avait donc, avec un soupir, montré la gravure à Mademoiselle Doullens, et la vieille demoiselle, qui s'humanisait décidément, avait commandé à l'inimitable Zacharie un toquet nouveau pour une jeune blonde de 20 ans. Le toquet était arrivé un samedi à la Cerisée, et dès le lendemain, l'esprit et les plumes ployaient au vent sur la route de Marance, blanche de givre et pleine de monde. Les cloches sonnaient pour l'épiphanie. On entendait toutes celles des paroisses voisines, car le ciel bas renvoyait leurs volées, mêlées, carillonnant ensemble comme des voix d'enfants qui rient. Les petits gars suivaient leur mère, un morceau de galette à la main. Il faisait bon marché dans l'air piquant, et Marthe allait, plus légère encore que de coutume, toute rose sous son chapeau bleu. Hélas, celui qu'elle aurait voulu voir n'était pas à l'église quand elle y entra. Il n'y parut pas. Son banc resta vide. À la sortie, Jacques ne se trouva pas là pour la saluer au passage. Elle s'en revient songeuse à la cerisée. « Où donc est-il allé ? » pensait-elle. La réponse lui fut donnée le soir même. Marthe avait accompagné sa tante chez les parents du comte Jules. Au cours de la visite, le vieux gentilhomme, un peu malignement, dit à mademoiselle Doullens « Savez-vous que vous perdez un voisin, mademoiselle ?»«
Lequel ?»«
Eh, notre ami Jacques de Lucé. Il est parti hier matin pour Paris. »
« Je l'ignorais complètement, mais cela ne m'étonne pas. Il enrageait de revoir Paris, je suppose. Est-il parti pour toujours ?»«
Heureusement, non, pour 4 mois seulement. » Marthe, que cette nouvelle atteignait au cœur, ne put réprimer le premier mouvement de son émotion.
« 4 mois ? » dit-elle. « Vous êtes sûr, monsieur ?»«
Mais oui, mon enfant, ce n'est pas de trop pour renouer tant de belles relations qu'il avait. » Et que l'absence dénoue vite pour secouer la poussière provinciale et redevenir parisien. D'ailleurs, nous sommes au temps des bals, des concerts, des expositions. La saison lui paraîtra moins longue que vous ne semblez le croire, j'en suis convaincue. Elle rougit beaucoup et, quand elle fut rentrée, elle pleura longtemps, amèrement, comme si elle avait perdu un de ses proches. Elle s'aperçut alors que Jacques de Lucé n'était plus pour elle un voisin ordinaire, et l'hiver, dont elle compta les jours, lui sembla plus sombre et plus lent que les années précédentes.